La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Combien de générations de savants et de médecins a-t-il fallu pour acquérir les savoirs, développer les traitements et mettre au point les techniques médicales dont nous disposons aujourd'hui? L'histoire de la médecine est faite de rebondissements, de coups de génie et de coups de chance aussi. Notre invité, Jean-Noël Fabiani, chercheur et clinicien, raconte cette histoire dans une bande dessinée intitulée « L'incroyable histoire de la médecine » aux éditions Les Arènes. On y apprend par exemple pourquoi au Moyen-Âge, les barbiers sont devenus chirurgiens, ou encore comment quelques siècles plus tard, l'anesthésie est née sur un champ de foire. L'histoire de la médecine est pleine de surprises. Vous n'en douterez plus après avoir entendu les récits de notre invité, à qui vous pouvez adresser vos questions dès à présent via la page de l'émission sur franceinter.fr. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Daniel.
À la une de la science aujourd'hui, une paléoclimatologue française dans le top 10 des scientifiques qui ont marqué l'année 2018 selon le classement établi par la revue Nature.
Dans la sélection du plus vieil hebdomadaire scientifique et l'un des plus renommés, Valérie Masson-Delmotte, puisqu'il s'agit d'elle, est notamment saluée comme, je cite, « force motrice » du récent rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et elle sera notre invitée.
Voilà pour le programme de cette tête au carré, réalisé par Clément Nouguier et préparé par Mathieu Aoued.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour Jean-Noël Fabiani.
Bonjour Monsieur Fievé.
Vous faites commencer votre bande dessinée « L'incroyable histoire de la médecine » à la préhistoire. Les hommes préhistoriques pratiquaient déjà une certaine forme de médecine ?
Bah, évidemment que oui. Depuis que l'homme est sur Terre, à partir du moment où quelqu'un avait un problème, un souci, une maladie, il y en a d'autres qui se sont mis là pour l'aider, pour le sortir d'affaire. Et puis rapidement, on a compris que c'était un pouvoir. Donc cet homme est devenu l'homme magie, le sorcier. Et donc il en tirait des tas d'avantages, des tas de bénéfices. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, la médecine et la magie ont été de conserve.
Oui, c'est vrai que souvent ça a été associé, encore un peu aujourd'hui, parfois. Alors au temps de la préhistoire, quand même, des remèdes basés sur des plantes, on pratique des amputations, des trépanations, ça va loin quand même.
Oui, oui, alors les plantes, depuis toujours, il y a des gens, des femmes souvent, qui avaient été capables de comprendre que certaines plantes avaient des effets bénéfiques pour dormir, pour calmer la douleur et ainsi de suite. On a même retrouvé dans des sacoches en peau de loutre, parce qu'elles sont imperméables, dans des clans néandertaliens, des graines qui étaient des graines de plantes qu'on connaît très bien aujourd'hui et qui servaient justement de pharmacie en quelque sorte. Alors, donc ça a toujours existé. Alors une amputation, c'est facile à faire. Redresser une fracture, ça devait faire mal sans anesthésie, mais on sait aussi faire. Quant à la fameuse trépanation, il y a beaucoup de chances de penser que c'était plutôt magique. On voulait chasser le mauvais esprit que l'homme avait dans la tête et on faisait un trou dans sa calotte crânienne. Ça ne veut pas dire qu'on était capable vraiment d'enlever un hématome extradural.
On s'intéresse à l'histoire de la médecine dans La Tête au Carré cet après-midi. Et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Parmi les scientifiques qui ont compté en 2018, la revue Nature a sélectionné la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte et c'est à la une de la science, Agnès.
Oui, Nature en retient 10, parmi lesquels une paléogénéticienne qui a découvert une jeune fille mi-déandertale, mi-dénisovienne, un astronome qui a établi la carte la plus détaillée de la Voie lactée ou encore la ministre malaisienne de l'Environnement pour ses engagements notamment dans la lutte contre la pollution au plastique. Et la française Valérie Masson-Delmotte pour sa contribution au rapport spécial du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est sorti début octobre. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc paléoclimatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de Paris-Saclay et coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC qui évalue la science physique du changement climatique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça fait de voir son travail salué par une des plus prestigieuses revues scientifiques ?
Bah c'est un honneur et puis c'est un honneur qui récompense un travail collectif puisque ce rapport il a été supervisé par les 6 coprésidents et il a été rédigé par plus de 91 auteurs de 40 pays différents.
Ce que relève la revue Nature, notamment Valérie Masson-Delmotte, c'est que vous avez réussi à agréger une masse incroyable de publications, plus de 6000 en un temps très court, 19 mois, pour présenter donc les diverses conséquences entre une hausse des températures d'un degré et demi, une hausse de 2 degrés. C'est l'urgence de la situation qui a joué aussi dans cette productivité.
C'est un rapport qui nous avait été demandé au moment de la COP21. C'est un rapport qui a reçu 42 000 commentaires de relecture. Et c'est un rapport qui est original parce qu'il compare finalement les impacts d'un demi-degré de plus qu'aujourd'hui, ou d'un degré de plus qu'aujourd'hui. Il regarde les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles. Il regarde les grandes transitions de systèmes qui permettraient de stabiliser le réchauffement avec 6 dimensions de faisabilité. Et surtout, et je pense que c'est là où il est innovant, il bénéficie d'une forte implication de chercheurs en sciences sociales sur les bénéfices permettant d'améliorer le bien-être de tous au sens du développement durable, tout en réduisant les rejets de gaz à effet de serre et en construisant un développement qui soit résilient, même si le climat continue à changer.
Donc vous vous êtes ouvert à d'autres disciplines scientifiques. C'était important notamment pour montrer la faisabilité économique de certaines transitions à engager pour rester dans le cadre d'un degré et demi par exemple.
Je pense que ce qui a été frappant dans ce rapport, c'est effectivement la faisabilité technologique, économique et sociale de ces grandes transitions. Ce qui était aussi important, c'était de montrer finalement à quel point chaque demi-degré compte. Mmh. À chaque point, nous avons encore une petite fenêtre d'opportunité, mais qui est étroite. Si on voulait stabiliser le réchauffement à 1,5 degré, on est déjà à 1 degré aujourd'hui. Il faudrait que les émissions mondiales de dioxyde de carbone, qui ont continué à augmenter ces dernières années, soient divisées par 2 à horizon 2030, et qu'on aille vers le net zéro émission de dioxyde de carbone à horizon 2050. Mmh. Et donc, ça n'est pas infaisable, mais ce serait des transitions sans précédent pour lesquelles on peut jouer à la fois sur la manière de produire l'énergie, les systèmes agroalimentaires, les systèmes urbains, les systèmes industriels, mais on peut également jouer sur la demande. Mmh. Et c'est un point qu'on met également en avant dans ce rapport.
Chaque demi-degré compte, vous venez de le dire, chaque jour compte aussi. Alors, parmi toutes les publications que vous avez agrégées dans ce rapport, vous dites avoir été frappé par les enjeux de sécurité alimentaire et d'eau. Pourquoi ?
Parce que au départ, il était difficile de savoir si on arriverait à identifier un signal lié à un demi-degré de réchauffement à la surface de la Terre. Et en agrégeant les résultats de la modélisation du climat global, mais aussi de la modélisation du climat régional, on s'aperçoit que pour un certain nombre de régions, il y a des différences très nettes. C'est par exemple le cas pour l'abondance des précipitations sur tout le pourtour méditerranéen qui diminue pour chaque demi-degré supplémentaire. Donc on observe déjà une tendance à la diminution des pluies et elle devrait s'accentuer, quasiment doublé entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement. C'est aussi le cas dans la plupart des régions tropicales où toutes les études récentes montrent que le réchauffement planétaire s'accompagnera de vagues de chaleur beaucoup plus intenses, beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus longues. Et cela fera chuter les rendements de céréales essentielles comme le blé, le riz, le maïs ou le sorgho, en particulier en Afrique subsaharienne.
Alors ça diminuera la production des récoltes. Est-ce que ça impliquera aussi que l'on change la nature des cultures, que l'on plante d'autres céréales à certains endroits ?
Oui, en fait, ces études, elles sont faites avec les cultures telles qu'elles sont, elles sont réalisées aujourd'hui. Donc, ça montre le besoin d'adaptation. Le besoin d'adaptation aussi bien pour la sécurité en eau, avec des pratiques performantes d'utilisation de l'eau pour l'irrigation, avec également la recherche de semences et de plantes qui soient plus résistantes aux vagues de chaleur. Mais on sait aussi qu'il y a des limites à ces capacités d'adaptation, aussi bien pour les milieux naturels que pour les plantes qui sont cultivées.
Et il y a une demande de la part de ces acteurs qui, on l'imagine, par exemple les agriculteurs, constatent quotidiennement les effets du réchauffement climatique.
Oui, on le constate partout, on le constate en Europe. On a eu l'année 2018 qui a été la plus chaude jamais enregistrée en Europe de l'Ouest. On a en France une sécheresse qui a été très prolongée, y compris jusque ces derniers mois dans l'Est de la France. Des situations qui sont inédites et pour lesquelles, effectivement, il y a besoin d'innover. Il y a besoin d'innover de sorte à être beaucoup moins vulnérable par rapport à la variabilité du climat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on prépare également un autre rapport spécial qui touche sur la question de l'usage des terres et du changement climatique. Ce rapport va porter sur la question de la dégradation des terres, de la désertification, de la sécurité alimentaire et de ce qu'on peut appeler une gestion durable des terres. Mmh. Parce que finalement, on a besoin des terres pour conserver le vivant et la biodiversité. On en a besoin pour nourrir les humains. On en a besoin pour produire des fibres. On en a besoin pour stocker du carbone. Et donc, c'est autant de pressions différentes qui posent vraiment de manière très urgente la question à la fois des régimes alimentaires et aussi la question de la gestion des terres.
Autre sujet, Valérie Masson-Delmotte, vous avez, est-ce que vous avez signé la pétition L'Affaire du siècle qui a été lancée par 4 ONG et qui attaque l'État en justice pour inaction climatique?
Oui, je l'ai signé.
Oui, et c'est, vous pensez que le droit, c'est une arme qui peut aider à accélérer justement toutes les transitions qu'il faut mettre en œuvre?
Alors, d'abord, le premier constat, c'est que la France ne tient pas ses engagements de baisse des rejets de gaz à effet de serre. Ils sont repartis à la hausse depuis quelques années. Donc ce sont des engagements qui ont été pris dans la loi, ce sont des engagements qui ont été pris au niveau européen et dans le cadre de l'accord de Paris. Le deuxième volet, c'est que la question du droit et la question du réchauffement climatique sont intimement liées. Le réchauffement climatique, il peut mettre en péril des droits fondamentaux à disposer d'un climat stable, de continuer à avoir une activité parfois traditionnelle sur un terroir, de continuer à habiter sur le littoral avec la montée du niveau des mers. Pour moi, le droit, c'est aussi, enfin la justice, c'est aussi un des piliers de la démocratie.
1,8 million personnes français ont signé cette pétition de l'affaire du siècle.
À ce jour,
hein, donc ça a été très vite, c'est un record absolu en la matière. Ça vous a surpris, cette mobilisation? Il est en train de se passer quelque chose dans les consciences?
Ça m'a pas vraiment surprise au sens où moi je vois vraiment une lame de fond où la plupart des gens simplement observent la réalité du réchauffement climatique et de ses effets. Il y a une forme d'intelligence collective réalise que ce réchauffement climatique n'est pas quelque chose de lointain et pour le futur, mais c'est déjà à l'œuvre aujourd'hui. Il y a une aspiration à préserver l'environnement qui est très forte. Et chaque fois qu'on donne la parole aux gens, que ce soit dans des débats participatifs, dans des assemblées citoyennes, on voit que la volonté d'agir par rapport au réchauffement climatique, elle est très présente, elle est bien plus présente parmi l'ensemble de la population et en particulier les jeunes générations que parmi, par exemple, les élus des parlements.
Merci Valérie Masson-Delmotte d'avoir répondu à nos questions. Encore bravo pour cette sélection dans le classement de la revue Nature. Et on aura certainement l'occasion de reparler de ces sujets avec vous dans La Tête au Carré. Merci à vous et Agnès, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 2018 aura été une année riche en surprises à Pompéi. Après les découvertes de deux grandes demeures dont certains graffitis remettaient en question la date de l'éruption du Vésuve, puis celle d'une fresque représentant une scène d'amour entre la reine Léda et Jupiter, les archéologues viennent d'exhumer les restes pétrifiés de chevaux, trois en tout, dont un entier équipé d'une selle et d'un harnais. Ils ont été découverts dans les ruines des écuries de la Villa des Mystères, une propriété qui aurait appartenu à un haut gradé de l'armée romaine. Selon les chercheurs, les chevaux étaient sur le point de partir. Ils auraient pu être étouffés ou brûlés par les vapeurs lors de l'éruption du Vésuve de l'an 79. On l'appelle Far Out, traduction anglaise de très loin, car c'est l'objet céleste le plus lointain qu'on ait jamais observé, et aussi parce que c'est plus joli que son nom astronomique 2018 VG18. Far Out orbite à environ 18 milliards de kilomètres de notre étoile. C'est 120 fois la distance Terre-Soleil. Son diamètre de 500 kilomètres fait d'elle une planète naine. Et dans les contrées très froides où elle évolue, il se pourrait que sa surface soit glacée. C'est du moins ce que laisse penser son éclat rosé. On termine avec une espèce de serpent inconnu, identifié dans le ventre d'un autre serpent. Le spécimen a été découvert il y a 42 ans par des cultivateurs de palmiers au sud du Mexique, mais il vient tout juste d'être identifié par les biologistes. Cette nouvelle espèce, décrite dans le journal d'herpétologie, a été baptisée Cenaspis enigma, ce qui signifie le mystérieux serpent dîné en latin. Il s'agirait d'un serpent fouisseur qui se cache sous terre pour éviter les prédateurs et qui se nourrirait surtout d'insectes et d'araignées. Les chercheurs lui ont trouvé quelques singularités comme des écailles non divisées sur la longueur de la queue et il est probable qu'il ait des congénères dans la forêt tropicale mexicaine. Dans un instant, on s'intéresse à l'histoire de la médecine dans La Tête au Carré. Excellent après-midi à l'écoute de France Inter.
Je ne veux
Dormir dehors, c'était Daran et les chaises sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Chaque fois que tu veux réparer une fracture, une luxation de la hanche, c'est pareil.
Mais tais-toi, moucheron, j'emploie le bâton. Je n'y peux rien. Et rare humanum est.
Tu veux faire le fier avec tes trois mots de jargon. Comment je vais apprendre la chirurgie, moi, si mon maître ne fait que des erreurs?
Tu n'as donc pas confiance en moi, petit ignorant? Moi qui ai étudié Hippocrate au Galien?
Un chirurgien barbier, son apprenti en train de se chamailler. Nous recevons aujourd'hui Jean-Noël Fabiani, chercheur et clinicien, chef de service à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Il vient de publier une bande dessinée intitulée « L'incroyable histoire de la médecine » aux éditions Les Arènes. Les dessins sont de Philippe Bercovici. Alors c'est un sacré défi que vous avez relevé, Jean-Noël Fabiani, faire tenir en près de 230 pages l'histoire de la médecine. Et on navigue d'un continent à l'autre, d'un siècle à l'autre, on remonte jusqu'à la préhistoire. Sacré défi.
Ah, c'était ça qui était intéressant, c'était que celui qui lisait ce livre ait une idée très correcte de l'ensemble de l'histoire de la médecine. Alors, en effet, l'histoire de la médecine, ça ne peut aller que depuis le paléolithique jusqu'à aujourd'hui, et bien entendu d'un continent à un autre, puisque partout il y a eu des inventions extraordinaires, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit bien entendu en Europe.
Alors c'est très complet et très plaisant à lire à la fois. On croise dans votre ouvrage le nom de médecins illustres qui ont marqué la discipline, à commencer par Hippocrate. Nous sommes 4 siècles avant notre ère. Alors Hippocrate, vous le présentez un peu comme le père de la médecine scientifique. Qu'a-t-il fait, Hippocrate ?
Je le présente, mais on le présente réellement comme le père de la médecine occidentale, avec juste raison, car c'est le premier véritablement qui va séparer la médecine et la magie. Les maladies ne sont plus liées aux dieux, les maladies sont des éléments sur lesquels on va pouvoir agir, on va pouvoir leur faire leur nomenclature, on va tout écrire, tous les signes sur des tablettes, on va réciter auprès des élèves, on va réciter l'ordre des choses, et donc véritablement c'est une attitude scientifique. Mmh. Alors bien entendu, nous sommes quand même au 4e siècle avant Jésus-Christ, ce sont des Grecs, et on n'a pas le droit d'ouvrir l'intérieur du corps, donc faut bien inventer un peu. Donc Hippocrate, évidemment, il invente complètement la physiologie. Il sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors il dit que ce sont des humeurs qui doivent être en équilibre. Il y a le sanguin, le bilieux, le phlegmatique, qu'on emploie encore aujourd'hui comme mot. Bien entendu, la physiologie sans Hippocrate, eh bien, n'a strictement aucune valeur.
Ouais. Alors, ce qui a de la valeur, par contre, encore aujourd'hui, c'est le fameux serment d'Hippocrate. Comment est-il né, ce serment d'Hippocrate ?
Alors c'est en effet très émouvant quelque part pour tous les médecins, comme si Hippocrate, à un moment, sans doute inspiré par la mort de Socrate, Hippocrate s'est dit, pour faire ce métier qui nécessite de telles responsabilités, il faut que ce soit des gens qui soient triés sur le volet et qui soient prêts, sur le plan éthique, à prêter un serment, comme quoi ils ne feront pas n'importe quoi, que ce ne seront pas des charlatans. Et donc, il fait tous ses livres, à un certain moment, tous ses livres sur la déontologie, sur l'éthique médicale, et puis il écrit ce fameux serment, bien entendu, que, encore, fait extraordinaire, mais enfin, 2 millénaires après, la plupart des médecins au monde prêtent en commençant leur exercice.
Il a été mis à jour quand même un peu, ce
serment. Un petit peu, il a été mis à jour parce que il y a des choses qui n'ont plus de sens. Par exemple, dans le serment initial, on s'engageait à ne pas faire d'avortement. Ce qui maintenant, dans notre législation, n'a plus de sens. Mais sur les grands principes, c'est-à-dire sur l'enseignement, sur le respect qu'on doit à ses maîtres, sur aussi le secret médical, tout est inscrit dans le serment d'Hippocrate.
Alors, l'histoire de la médecine, on s'en rend compte, en vous lisant, n'est pas faite uniquement d'avancées et de progrès. Il y a aussi des moments de régression, des moments d'oubli durant l'Antiquité. Beaucoup de connaissances et de savoirs ont été accumulés dans le domaine médical, qui ont ensuite été perdus, notamment avec le tragique incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Nous sommes 48 ans avant notre ère.
Absolument, César, qui court après, bien entendu, Pompée, qui va avoir son aventure avec Cléopâtre, et bien il passe, et la bibliothèque d'Alexandrie, 700 000 rouleaux. Ouais. Vous vous rendez compte, c'est la somme de toutes les connaissances d'Antiquité, et ça brûle, et puis ça brûlera encore après. Enfin bon, c'est malheureusement la guerre, c'est malheureusement les hommes qui ne réfléchissent pas à la culture. Et il y a eu une perte de connaissances absolument indiscutable. Et elle a surtout touché le monde occidental, c'est-à-dire les héritiers, en fait, de l'Empire romain. Parce que, heureusement, les choses sont bien faites. Il y a des médecins qui étaient partis par un schisme, les médecins nestoriens, et ils sont partis en Perse. Et là, en Perse, ils vont d'abord connaître tous les textes qu'ils vont traduire dans leur langue, le syriaque, et puis ils vont aussi avoir des nouvelles façons d'enseigner la médecine. Ils inventent le CHU, soyons clairs, hein, quelques centaines d'années après, dans notre ère. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ensuite arrive, bien entendu, la révélation de Mahomet. Et là, c'est une effervescence incroyable, parce que les Arabes vont conquérir le monde en portant une foi nouvelle, mais ils vont aussi demander à ce que tous les textes soient traduits en arabe. Mmh. Et quelque part, ça va être en quelque sorte la lumière de ces textes, ouais, qui vont perdurer grâce à l'arabe.
Alors pendant que la lumière de ces textes perdure du côté du monde arabe, en Europe, c'est l'obscurantisme. Hein. Au Moyen-Âge, règne l'obscurantisme, la mainmise de l'Église.
Absolument.
Sur les savoirs.
Absolument.
Et les connaissances.
C'est vrai. Eh bien, c'est vrai, il faut le reconnaître. En particulier, les seuls instruits de cette époque, ce sont des prêtres, ce sont des clercs. Et c'est quand même, Saint Benoît avait dit, il faut s'occuper de son frère comme on s'occuperait du Christ lui-même. Mais cependant, eh bien, seuls les moines peuvent donner des soins. Mais l'Église, à un certain moment, elle voit pas ça d'un bon œil, parce qu'elle s'aperçoit que les gens vont voir les prêtres plus pour le salut de leur corps que pour le salut de leur âme. Si bien qu'elle va donner, après plusieurs conciles, cette instruction formelle, l'Église abhorre le sang. L'Église, donc les prêtres, ne peuvent plus pratiquer la chirurgie. Qui va pratiquer la chirurgie puisque les prêtres ne veulent plus le faire? Eh bien, les seuls qui ont des lames qui coupent au Moyen-Âge, les barbiers. Et les barbiers s'engouffrent en quelque sorte dans ce métier de chirurgien, parce que, soyons clairs, ils sont les seuls au Moyen-Âge qui ont des lames qui coupent à peu près pour faire des saignées, pour faire des abcès, pour faire des amputations. Il faut quelque chose qui coupe.
Donc on est dans une situation qui nous semble aujourd'hui complètement aberrante. Les barbiers ont les lames, mais pas forcément le savoir. Hein. Ils sont ignares en médecine.
Totalement ignares.
Mais ce sont eux qui opèrent et qui exercent la chirurgie.
Oui, alors ils exercent la chirurgie, c'est vrai, mais sous les instructions des docteurs en médecine. Car, évidemment, les barbiers, ils ne connaissent pas la première déclinaison. Hein, dans latin, ils n'ont pas lu Aristote, ils ne savent rien. Donc, ils opèrent à condition qu'il y ait une instruction, une prescription, en quelque sorte, d'un médecin qui, lui, avec les années qui viennent, là, vont être plus souvent des laïcs et vont être aussi formés dans ce qu'on appelle les universités. Ça va être la deuxième partie du Moyen-Âge. On va passer de la médecine monastique, c'est-à-dire des moines, pour passer à la médecine scolastique, c'est-à-dire la création des grandes universités de la fin du Moyen-Âge.
Alors, ce qui va contribuer au changement du statut de ces barbiers chirurgiens, c'est un événement qui arrive au Roi Soleil, à Louis XIV.
Oui.
Alors, de quoi souffre-t-il et pourquoi ça va avoir une influence sur le sort des barbiers?
Parce que le pauvre Louis XIV, il avait une fistule anale, qui est quand même une maladie assez grave qui fait communiquer, avec des problèmes infectieux, l'intérieur du canal anal et la fesse. Et il ne guérissait pas. Les médecins, son médecin, Fagon en particulier, lui disait « Sire, il faut boire de l'eau minérale. » Ça plaisait pas tellement à Louis XIV, l'eau minérale. Donc, ça durait. Et c'était ennuyeux. C'est Louvois qui est intervenu, qui a dit au Roi Soleil « Sire, le monde commence à se faire du souci. On dit que vous allez mourir ou que vous êtes à l'article de la mort. Il faut absolument lever ce doute. » Et Louis XIV dit « Bah oui, écoutez, qu'est-ce que l'on va faire » dit-il à Louvois. « Faisons venir votre barbier chirurgien. »
Félix.
Félix, il s'appelle Félix et il est en effet le fils de Félix d'ailleurs, qui était déjà barbier chirurgien à la cour du roi. Et Félix arrive, alors il examine le roi comme à l'époque, il n'y a pas la pudeur qu'on a maintenant. Hein. Le roi baisse ses choses, soulève son manteau devant...
En public, devant tout le monde.
Oui, devant tout le monde. Félix s'approche, regarde le truc et puis il dit « Écoutez sire, je m'inquiète un peu parce que l'opération qu'il va falloir vous faire, c'est l'opération, et il dit ce mot extraordinaire, crucial. » Crucial, Louis XIV, doute bien, c'est quand même pas de la rigolade. Et donc il dit, entraînez-vous Félix, toutes mes galères et toutes mes prisons vous sont ouvertes. Et en effet, Félix s'entraîne pour faire cette opération. Il fait bien faire des instruments spéciaux pour être capable de traiter le derrière royal.
La fistule anale du
la
roi.
La fistule anale du roi. Alors ça se passe à Fontainebleau en novembre, ils sont que quelques-uns. Le roi était très courageux, parce que n'oublions quand même pas qu'il n'y a pas d'anesthésie tout de même. Félix lui fait une opération qui en quelque sorte, en langage médical, met à plat toute cette fistule de façon à la guérir. Et Félix avait bien entendu une recette remarquable dans sa poche, puisqu'il faisait des pansements avec du vin de Bourgogne.
Oui, alors, et ça... pansement au vin de Bourgogne, et Madame de Maintenon fait... composé à Lully.
Ah, Madame de Maintenon dit que mon mari, certes morganatique, mais mari quand même, eh bien, il faut absolument le soutenir et on va faire intervenir Dieu. Et elle demande à Lully de composer un hymne qu'elle va faire chanter à ses demoiselles. Et ce jour-là, en même temps que l'opération, elle fait chanter aux demoiselles ce fameux hymne magnifique qui s'appelle...
On va l'entendre.
Dieu sauve le roi. Et là, Jacques de Stuart, qui était en exil, il passe, là, il va devenir roi d'Angleterre après, il écoute cette, il dit, c'est formidable. Et il dit, je le prendrai comme hymne national lorsque je rentrerai en Angleterre comme roi. Si bien que les Anglais, sans le savoir, ont comme hymne national un air qui a été composé pour le cul du roi Louis XIV.
Mais c'est incroyable, hein. Vous l'avez prévenu, l'incroyable histoire de la médecine. Allez, on poursuit notre exploration de l'histoire de la médecine avec notre invité, Jean Noël Fabiani, dans un instant. Et pour adresser vos questions à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. C'était Cléa Vincent qui chantait Nuit sans sommeil.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Du bricolage de la préhistoire à l'hyper-sophistication de la médecine d'aujourd'hui, Jean-Noël Fabiani, chercheur et clinicien, raconte l'incroyable histoire de la médecine dans une bande dessinée publiée aux Arènes. Vous avez, et vous enseignez encore, Jean-Noël Fabiani, la médecine et l'histoire de la médecine à la fac, à l'université, oui, depuis plus de 10 ans maintenant. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de support et d'avoir cette forme beaucoup plus ludique de la bande dessinée? Parce qu'on s'amuse aussi en vous lisant.
Grosso modo, c'est une discussion avec l'éditeur des Arènes, Monsieur Muller, qui m'a dit « Écoutez, si vous sortez une histoire de la médecine écrite comme vous avez fait jusqu'à présent, il y a très peu de gens qui vont être intéressés parce que ça va faire un gros pavé et c'est plus dans l'air du temps, en quelque sorte. En revanche, si vous faites une bande dessinée, ça va être beaucoup plus ludique et donc ça va s'ouvrir à beaucoup de gens, en particulier aux jeunes. » Alors j'ai été sensible à ça, mais je lui ai dit « Mais vous savez, je ne sais pas faire, moi, des bandes dessinées. » Je me dis, vous allez vous débrouiller. Et en effet, je me suis débrouillé. J'ai fait un peu comme un prof de fac, c'est-à-dire que j'ai fait des diapos, quoi, comme on fait pour faire un cours. Et je me suis très bien entendu avec le dessinateur, Philippe Bercovici, qui est un génie du crayon et qui on a travaillé très facilement ensemble. Alors bien sûr, Philippe Bercovici, il est en Belgique, parce que il est clair que lorsqu'on est dessinateur de bandes dessinées, on ne peut être que belge.
On se doit d'habiter en Belgique. Alors certaines pratiques médicales, on le voit dans votre ouvrage, se voulaient modernes et utiles hier, elles ne le sont plus forcément aujourd'hui.
Nous allons le porter sur son lit, doucement.
Il survivra ?
Personne ne peut le savoir. Les plaies sont très profondes. De toute façon, la première des choses est d'extraire les humeurs malignes. Et pour cela, je vais pratiquer une saignée.
Une saignée encore ?
Je vous interdis de pratiquer la moindre saignée. Il ne vivra que s'il a toutes ses forces.
Votre grâce, voyons, vous allez contre tous les principes de la médecine moderne.
C'est très possible, mais quand un homme a perdu des pintes de sang, on lui laisse le reste.
Selon Hippocrate, il...
Je me moque d'Hippocrate. Vous êtes tous des ânes et des ânes prétentieux. Sortez !
Eh bien voilà qui est dit, extrait du film Rembrandt au XVIIe siècle. On pratiquait encore beaucoup de saignées, Jean-Noël Fabiani.
Bien entendu, on pratiquait deux grands éléments hippocratiques. Parce que Hippocrate disait que la santé, c'était l'équilibre entre les différentes humeurs. Et donc, il y avait quatre humeurs, et si jamais elles n'étaient pas en équilibre, ça donnait ce qu'on appelle des humeurs pécantes, qui pêchent. Et donc, il fallait les éliminer. Alors, comment les éliminer ? Soit par le sang. Donc on faisait une saignée, on enlevait donc les mauvaises humeurs, soit bien entendu par le clistère, c'est-à-dire le lavement. C'est-à-dire que bien entendu, ce qu'on avait dans l'intestin ne pouvait pas être bon. Donc, vous vous trouvez avec les deux grands principes qui ont gouverné le monde médical pendant des millénaires. D'un côté la saignée, de l'autre côté le lavement. Lavement, saignée, purgaré, seigneuré, oui.
Les médecins de Molière.
Ben bien sûr, purgaré, seigneuré.
Mais est-ce que ça avait une réelle utilité dans le fond, si on a fait ça pendant des siècles, voire des millénaires?
Je crois que le lavement, c'était pas très 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 méchant, et ça pouvait pas faire vraiment mal. Quoique, on a été jusqu'à quand même lavementer le roi Louis XIV 20 fois dans la journée.
Ah oui, ça fait beaucoup.
Donc c'est quand même beaucoup. Puis les apothicaires qui faisaient ces lavements, faisaient se débrouiller pour que ça fasse saigner le côlon. C'était le lavement jusqu'au sang, vous voyez. Quant à la saignée, Louis XIV, par exemple, il détestait les saignées aussi, et il voulait plus qu'on le saigne. Et je crois vraiment que, sauf quelques cas très particuliers, quelqu'un qui a une suffocation par une maladie cardiaque, ça peut être utile de le saigner. Mais enfin, la plupart des gens, ils n'avaient pas besoin d'être saignés. Au contraire, ça aggravait leur état.
Alors, vous l'avez dit, pendant des siècles et des siècles, l'Église a interdit que l'on ouvre, que l'on dissèque les corps, ce qui explique que on comprenait finalement relativement mal, voire pas du tout, ce qui se passait à l'intérieur du corps humain. Et on était aussi très attaché aux principes, aux théories de Claude Galien, ce médecin qui remonte quand même, on est un siècle après notre ère.
Bien sûr. Claude Galien, c'est le grand pape, en quelque sorte, de la médecine, c'est qu'on doit le dire, de l'Antiquité. Il fait la synthèse de tout, il écrit 500 livres, il est persuadé qu'il est le plus grand médecin qui n'a jamais existé sur Terre.
Très prétentieux, en tout cas. Votre livre.
Oui, il est très prétentieux. Je le trouve pas très sympathique, mais enfin, bon, côté simplement, c'est un type qui a une connaissance absolument incroyable. Et il va être reconnu par l'Église catholique naissante comme la référence. Pourquoi ? Parce qu'il est monothéiste et qu'il pense que Dieu permet aux hommes de comprendre le monde. Et donc, il va être considéré comme la référence. Et tous ceux qui ne seront pas de l'avis de Galien, eh bien, se mettront en danger par rapport à l'Église quand elle deviendra plus agressive, c'est-à-dire au moment de l'Inquisition, puisque ça pouvait très mal se passer. N'oublions pas qu'un certain nombre de gens, pour des raisons de dissection, eh bien, se sont vus brûler sur un bûcher.
Et alors, Galien avait compris certaines choses, mais en tout cas, la circulation sanguine n'avait pas vraiment compris ce qui se passait.
Et il n'avait rien compris du tout à la circulation sanguine. Faut pas lui le jeter la pierre. Hein. Vous savez, pour un homme de son temps, qu'est-ce qu'il y a de différence pour un homme de cette époque entre un mort et un vivant? Ben, c'est pas compliqué. Vous avez le mort qui est froid et vous avez le vivant qui est chaud. Et ben, si le vivant est chaud, c'est qu'il y a un élan vital chaud, une chaudière dans l'organisme. Et qu'est-ce qui peut être la chaudière, dit Galien? Et ben, c'est Aristote qui dit ça avant lui. Ça ne peut être que cet organe qui fait boudoum, boudoum, boudoum dans la poitrine. C'est obligatoirement la chaudière. D'ailleurs, c'est tellement une chaudière qu'on a mis au-dessus deux soufflets, les poumons, pour raviver le feu, vous comprenez? Donc tout ça, c'est une certaine logique, oui. Même si bien entendu, ça n'a pas de sens. Et alors, Galien croit à une façon de la circulation sanguine. Il ne croit pas que le sang circule, puisqu'il croit grosso modo que le sang vient de ce que l'on mange, et puis va vers la périphérie et s'évapore aux extrémités. Donc, il n'a pas du tout la notion que le sang tourne sur lui-même, et il n'a pas aussi la notion que le sang passe dans les poumons pour être, bien entendu, recevoir de l'oxygène. Il n'a pas cette notion-là.
Si bien que, des siècles après, à la Renaissance, Léonard de Vinci, en personne, en est encore à s'intéresser à la circulation sanguine.
Que fais-tu là, Leonardo ?
J'étudie. J'essaie de comprendre le système sanguin de l'être humain, monseigneur. Rendez-vous compte. Le nombre de vaisseaux, d'artères, de vénules, de veines, où circule le sang là-dedans. Tout ça pour faire battre un cœur exigeant, mais qui ne demande plus rien à présent.
Qu'as-tu appris sur le système sanguin ?
À mon avis, il y a dans le corps des milliers de lieux de vaisseaux sanguins. Des milliers de lieux, des dizaines de milliers de lieux. Et tout ça pour faire battre ce cœur. Avez-vous déjà vu un cœur, monseigneur ?
Non.
Voilà.
Le cœur humain, c'est ça. Ce n'est que ça.
Jean-Noël Fabiani, à la Renaissance, les tabous, les interdits commencent un peu à tomber. L'Église faiblit ?
L'Église ne faiblit absolument pas. C'est le courage des hommes et le désir de la science qui va vraiment être l'acteur de cette renaissance, avec des hommes qui vont mettre leur vie en danger. Vézal, parce qu'on parle, le grand anatomiste, bien entendu, c'est Vézal, parce que plus que Léonard, dont on vient d'entendre parler, Léonard, il avait très peur de l'Inquisition. Ouais. Donc, il ne nommait pas. Il faisait des dessins magnifiques, ouais. Mais il les nommait pas. Il faisait pas de l'anatomie. Tandis que Vézal, lui, fait de l'anatomie. Et tout le monde veut le descendre, ouais. Vézal. Hein. Servet va quand même être le premier à décrire correctement la petite circulation sanguine. En fait, on sait maintenant qu'il a un peu copié sur un auteur arabe de siècles avant. Mais il se termine quand même. Calvin le met sur un bûcher.
Oui, c'est ça. Michel Servet et André Vézal, ça va leur coûter la vie. Recherche dans ce domaine.
Tous les deux vont mourir des suites de leurs recherches en matière de médecine.
Alors, vous avez fait une petite parenthèse, mais on va quand même prendre le temps de la détailler. Vous dites, il n'est pas impossible qu'il se soit inspiré d'écrits, là encore, venant de pays arabes. Ils étaient en avance sur nous, encore sur ce coup-là ?
Extraordinaire. Il y a un certain Ibn Nafis qui a écrit des choses qui montrent clairement qu'il a découvert la petite circulation sanguine, c'est-à-dire l'élément essentiel pour comprendre la grande circulation du sang. Il l'avait démontré deux siècles avant Servet et avant Vézal. Seulement, il l'écrit en arabe. Alors on dit, oui, il écrit en arabe, mais si, c'est faux, ça avait été traduit. Il y avait un certain Andrea Alpago, qui était en fait l'espion du Doge. L'espion du Doge l'avait envoyé, le Doge de Venise l'avait envoyé à Damas pour qu'il explore un petit peu les possibilités de l'implantation des Vénitiens, et puis surtout de voir ce qu'allaient faire les Ottomans, ce qu'allaient faire les Mamelouks et tout ça. Et donc il est au milieu de tout ça, mais il était un très bon arabisant. Et aussi, c'est un médecin qui sort de la faculté de Padoue, et il traduit tout ces textes-là. Et il voit bien, lui, que ces textes, c'est du soufre. Et donc, il fait très attention en revenant à Padoue. Padoue, qui est bien entendu la grande faculté, hein, c'est la Mecque de l'époque. Eh bien, il revient avec tous ses textes et il va les donner, par l'intermédiaire de son neveu, Paolo, il va les donner qu'à ceux à qui il veut bien les donner.
Or, Michel Servet et André Vézal sont passés par Padoue.
Bah, bien sûr.
Donc, on peut effectivement imaginer, sans en avoir la preuve, qu'ils bien ont sûr, eu ces textes entre les mains.
Padoue, c'est le grand endroit de la liberté d'enseignement grâce à Venise. Parce que, mais le pape, les états pontificaux n'osent pas aller chercher noise à ceux qui enseignent à Padoue. Et Galilée enseignera à Padoue. Il enseignera, bien entendu, ce que disait le moine Copernic.
On continue de feuilleter les pages de l'histoire de la médecine avec notre invité Jean-Noël Fabiani sur France Inter.
Na rabuda que manda no requebrar. A criola que guia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Que manda não se quebrar. A crioula que fui a te ama, te beija pra viajar.
C'était Kuzula de Pongo et merci à Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de La Tête au Carré.
La Tête au Carré, Daniel Fievé.
Écartez-vous et déplacez ce banc.
Et voilà.
Voyons cela, soldat. Il va falloir amputer ce bras.
Si ça peut vous aider, vous pouvez emprunter mon épée. Je l'ai aiguisée moi-même hier.
Il faudra que ça aille. Il me faudra aussi de quoi faire un garrot.
Tenez, vous pouvez prendre ça. Il est à ma femme. Elle me l'a donné comme porte-bonheur.
Très bien. Qu'on m'apporte de l'eau bouillante et un linge propre.
Je suis le chirurgien ici.
Vite !
Avez-vous une expérience médicale ?
J'en ai assez pour savoir qu'on ne peut pas sauver ce bras.
Et vous n'allez pas tourner de l'œil quand je me mettrai à le scier ?
J'ai vu pire, sans tourner de l'œil. Tenez ses genoux. Vous, tenez-le par les épaules.
De l'opium. Faites-lui avaler si vous pouvez.
Désolé, soldat.
Mort, soldat. Mort à t'en casser les dents.
Allez, on se calme.
Extrait de la série Outlander, la scène se passe au XVIIIe siècle. Invité de la tête au carré aujourd'hui, Jean-Noël Fabiani, chercheur et clinicien, auteur de la bande dessinée L'incroyable histoire de la médecine aux éditions Les Arènes. Par le passé, la médecine a pu être brutale, hein, comme on vient de l'entendre, Jean-Noël Fabiani. La scène de la série que l'on vient d'entendre vous semble-t-elle réaliste ?
Elle l'est tout à fait, parce qu'il fallait faire des amputations sur les champs de bataille. Et on n'avait pas le temps, ni bien entendu les instruments de l'anesthésie. Donc, lorsque le baron Larrey, le soir de la bataille des Lots, a 200 amputations à faire, c'est quand même énorme, hein, d'abord, il fait moins 20 ce soir-là, il a même pas d'eau, parce que tout est gelé, et il faut amputer tous ces pauvres gars qui ont des fractures de jambes liées aux différents traumatismes de la guerre.
On apprend d'ailleurs dans votre livre que l'expression « casser sa pipe » est née sur les champs de bataille.
C'est ce qu'on raconte. En effet, Larrey demandait aux soldats de mordre très fort dans le fût en bois de la pipe et la partie de la calotte était en terre. Et si jamais le gars lâchait la pipe en quelque sorte et si le fût en terre se cassait par terre, on disait il a cassé sa pipe et la reine disait bah oui il est mort.
Ouais, ça vient de là. Alors tout ça sans anesthésie, on a quand même essayé d'utiliser des choses. On entendait dans l'extrait l'opium. On se servait de quoi avant vraiment d'avoir l'anesthésie pour opérer, pour
alors,
intervenir.
On servait de l'opium, on servait de l'alcool aussi, hein, ouais. Soyons clairs. Le fait de boire une grande rasade de gnôle avant l'opération, c'est pas simplement une histoire, une gaudriole, c'est vrai. Et puis aussi, on utilisait les garrots. Et quand on mettait le garrot très fort, assez longtemps, eh bien, le garrot entraînait finalement une sorte d'anesthésie dans le membre. Mm-hmm. Alors, c'est pas une anesthésie très importante, ouais. Mais quand même.
Un peu comme des fourmis, comme
oui,
on
oui, c'est ça, exactement. Hein, c'est-à-dire que les nerfs, si vous voulez, ne fonctionnent plus quand il n'y a plus de sang pour les irriguer. Et donc, on pouvait faire des opérations un peu moins douloureuses.
Oui. Finalement, l'anesthésie arrive très tard dans l'histoire. On a longtemps souffert dans l'histoire de la médecine. Elle naît sur un champ de foire. Expliquez-nous.
Oui. Alors, c'est une histoire formidable. C'est l'histoire d'Horace Wells, qui est dentiste. Alors, imaginez l'art dentaire à la fin du 19e siècle. Je peux vous assurer que c'était essentiellement la tenaille et le davier comme instrument. Donc, c'était quand même quelque chose d'un peu tonique.
Oui.
Ça se passe à Hartford
dans le Connecticut, aux États-Unis.
Et aux États-Unis. Et donc c'est la fête foraine. Et tous les gens du temple en particulier, parce qu'ils sont tous très 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 croyants, eh bien assistent à cette fête. Et il y a une baraque qui s'appelle la baraque du gaz hilarant. Et un type qui est pas tellement drôle d'ailleurs, qui est un copain de Horace Wells, monte pour respirer le gaz hilarant. Et il respire le gaz. Il est pris d'un éclat de rire, hein, un peu contre son gré, comme tous ces éclats de rire provoqués. Et puis, ça l'entraîne un petit vertige, il titube, il tombe en descendant de l'estrade, un clou dépasse, ce clou lui arrache le mollet. Et, alors bien sûr, Horace se précipite, « Sam, qu'est-ce que tu as ? Tu as mal ?» Et il dit, « Mais non, pas du tout, je suis pas du tout mal, qu'est-ce que je ris ?» Et Horace est un peu étonné quand même, parce qu'il voit que la plaie est mauvaise. Et il passe 2 heures après chez lui, et là, le pauvre Sam se hurle de douleur sur son lit de misère. Et là, c'est ça qui est formidable en médecine. C'est un homme qui dit, et si c'était le gaz qu'il avait respiré qui lui avait entraîné une anesthésie. Ce gaz, c'est le protoxyde d'azote, le premier gaz anesthésiant.
Donc ensuite, il va avoir l'idée de s'en servir dans son cabinet médical.
Alors oui, parce qu'il veut quand même faire une expérience, finalement, avec du sens. Et il demande à son assistant, alors qu'il a une dent incarcérée lui-même, il demande le lendemain d'utiliser justement ce gaz hilarant, pour enlever sa dent. Et on lui enlève la dent, il ne sent rien ou presque rien, et il dit, voilà, c'est formidable, on vient d'inventer l'anesthésie.
Ouais, alors après, évidemment, ça va se perfectionner. On va aussi utiliser le chloroforme.
Oui.
Notamment, la reine Victoria, on sera contente du chloroforme, pour quelle raison ?
Bien sûr, elle va être contente, la reine Victoria. Mais celui qui invente, qui s'appelle Simpson, eh bien, qui est formidable, c'est un personnage, il faudrait en parler pendant des heures, mais qui est un accoucheur. Ouais. Il est accoucheur. Oui, mais attention, on se heurtait à la Bible qui disait « tu accoucheras dans la douleur ». Et donc, c'est pas possible, tout le monde lui tombe sur le dos, on dit « mais vous voulez faire accoucher les femmes sans qu'elles aient mal, mais ça va pas du tout, Dieu a dit le contraire ». Alors ce pauvre Simpson qui voulait faire ça, bon, vous imaginez la situation, c'est quand même très embêtant. Et puis alors le coup formidable, la reine Victoria, son 7e enfant quand même, donc ça devait se passer quand même assez bien, décide d'utiliser le chloroforme pour accoucher. Et là c'est très important. Pourquoi c'est très important ? Parce que elle n'est pas seulement la reine d'Angleterre, Victoria, elle n'est pas seulement l'impératrice des Indes, mais elle est aussi la chef de l'Église anglicane. Et à partir du moment où la chef de l'Église anglicane dit « moi j'accouche grâce sans douleur, grâce au chloroforme », eh bien, ça va modifier complètement, chez les anglo-saxons en tout cas, ça sera pas pareil en France, mais chez les anglo-saxons, ça va complètement modifier l'attitude vis-à-vis de l'anesthésie.
C'est souvent soit des coups de chance, aussi des moments de courage qui influencent le cours de l'histoire. On s'aperçoit aussi, c'est assez triste, mais on s'aperçoit en vous lisant que la médecine a longtemps oublié les enfants, ne s'est pas occupée des enfants.
Non, elle s'est pas occupée des enfants. Le mot pédiatrie apparaît dans la langue française en 1902, en 1903. On s'en occupe pas. Pourquoi on s'en occupe pas ? Toujours pareil, il faut essayer de comprendre les gens de l'époque. Il y a une mortalité infantile épouvantable, même dans les familles royales. 50% des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. Donc, à la limite, les gens se disaient, c'est comme ça. Ils sont dans les mains de Dieu. Et même le grand Montaigne dit « j'ai perdu 2 ou 3 enfants ». Il s'en souvient même pas du nombre d'enfants qu'il a perdu en bas âge. Parce que c'est normal. Donc, on ne s'en occupe pas. On attend qu'ils deviennent des petits adultes. Et là, ils deviennent vraiment des petits adultes. Et là, on va s'en occuper comme des adultes. Le premier qui va attirer l'attention du monde sur « attention, il y a un âge pour les apprentissages aussi », c'est Jean-Jacques Rousseau. Que pas un père absolument parfait, hein, loin de là, il a mis ses enfants à assistance, lui quand même. Mais enfin bon, il écrit l'Émile ou de l'éducation, où il va, le philosophe, le grand philosophe, va quand même dire, voilà, il y a un âge pour les apprentissages, et voilà ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Bon. Et ça va changer un petit peu l'attitude vis-à-vis des enfants. Ouais. Mais pour autant, pendant le 19e siècle, on ne sait pas sortir d'affaires un prématuré. On a beau le chauffer et tout, lui mettre de la paille autour, il meurt. Mmh. Et alors, c'est la fameuse histoire, bien sûr, si j'ai le temps de la raconter.
Alors, on a 10 secondes, si vous pouvez le faire en 10 secondes, ça va être difficile.
Eh bien, le grand accoucheur, il va au jardin d'acclimatation, il s'aperçoit qu'on peut mettre des œufs dans une couveuse, et ça lui vint comme idée pour sauver les gamins qui font une couveuse.
Ouais, ça vient vraiment à chaque fois sur des coups de chance, des intuitions. Merci Jean-Noël Fabiani. Je rappelle le titre de votre bande dessinée, L'incroyable histoire de la médecine, aux éditions Les Arènes. Les dessins sont de Philippe Bercovici. Merci à vous.
Merci.
Juste après
Merci
les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles. Aujourd'hui, l'assassinat du juge Falcone.